Europe 1 Soir Week-end.
18h-20h.
Jacques Seret. Europe 1, il est 19h33 et c'est un réel plaisir d'accueillir dans ce studio une figure, un personnage de Paris Match. Bonsoir Patrick Mahé.
Bonsoir Jacques. Bonsoir les auditeurs.
Je tiens dans mes mains votre livre sorti aujourd'hui aux éditions Plon, La légende de Paris Match, publié pour les 75 ans du magazine 1949-2024. Match est le témoin privilégié de l'histoire des Français. D'où vous est venue cette idée de retracer la grande histoire de Paris Match au travers de ses plus de 500 pages?
Ben, d'abord, j'ai écrit déjà plusieurs livres sur Paris Match. Et en plus, j'y ai passé à peu près 25 ans. Donc 25 ans, c'est pas mal pour avoir recueilli les témoignages des anciens, des grands anciens, d'avoir les pères fondateurs, notamment Roger Théron, dont on parlera forcément, ou Daniel Philippaki, Jean Co, tous ces grands noms, les avoir fréquentés assidûment, et les grands reporters, les photographes. Le monde des photographes, c'est un monde extraordinaire à Paris Match. C'était une caste très particulière, enviée de tous ses confrères, évidemment, parce qu'ils avaient d'abord des moyens pour travailler, et ça c'était formidable, et puis qu'ils étaient dans l'ensemble plutôt beaux gosses, bon, et puis ils avaient une ambiance un peu entre eux, ils vivaient entre eux et presque un peu en meute quand ils sortaient parfois le soir, donc c'était marrant.
Donc vous vous êtes dit, il faut absolument raconter une fois de plus cette histoire et marquer le coup pour les 75 ans, c'est l'idée de ce livre.
Absolument, absolument. J'avais fait aussi les faits divers avec une équipe de Paris Match, j'avais dirigé ce magazine, les grands faits divers, Grégory, Bruant, Artois, etc., dont on parlera aussi sûrement. Mais je me suis dit que pour les 75 ans, quand même... Qu'est-ce qu'on fera dans 75 ans? C'est d'ailleurs le titre éditorial de Jérôme Béglé qui m'a succédé comme directeur de la rédaction. Là, c'est un point d'ancrage très très important pour les lecteurs de plusieurs générations. Les grands-parents, les parents, nous-mêmes et les enfants. Ça fait le lien des 75 ans.
Et justement, ces 75 ans, quand on les regarde, quand on analyse, vous avez été au cœur du réacteur, entre guillemets, durant plus de 25 ans, vous l'avez rappelé. Quel est le secret, selon vous, de cette longévité de Paris Match, toujours au sommet?
Alors, au départ, dans les années 50, au début, quand il a décollé grâce à Maurice Herzog, qui a planté le drapeau français au sommet de l'Annapurna en 1950, il n'avait pas encore énormément de moyens, mais il avait déjà ce moteur en lui qui en faisait un magazine irrésistible. Et qui s'inspirait au départ du magazine américain Life, c'est-à-dire un magazine Life, la vie qu'on raconte avec des histoires de A à Z. On commence une histoire et on la termine. Si on la termine pas, c'est que le sujet n'est pas bon. Donc s'il n'est pas bon, et ben ça devient un non-paru. Et c'est aussi pour cette raison que ce magazine a opéré cette magie dans l'imaginaire des lecteurs et des familles qui ne pouvaient plus s'en passer. C'était la télévision avant la télévision.
Justement, c'est les jeunes journalistes que vous avez formés, que vous racontez dans ce livre, vous ont souvent demandé de décrire l'ADN de Match, expliquez-vous, dans votre livre. Cet ADN, il se résume à quoi ?
L'ADN de Match, on m'a posé la question assez souvent, et notamment, vous avez raison de le souligner, en conférence de rédaction. Et donc, j'ai expliqué que l'ADN, c'était une mobilisation d'abord de tous les instants pour concevoir un reportage quand on est reporter. C'est-à-dire ne pas se contenter d'obtenir des photographies sur un sujet photographiable ou de raconter une histoire écrite si elle mérite d'être écrite, mais de pouvoir la composer, de l'écrire comme on écrit un scénario de film. Et donc, c'est une mobilisation de tous les instants de l'esprit pour trouver l'angle d'attaque et l'angle de sortie d'un récit et d'un sujet. Donc, quand on vous remet un sujet en tant que reporter, il faut le bâtir. C'est un acte de construction. Il y a des fondations, il y a un rez-de-chaussée, il y a un premier étage, il y a une toiture, il y a ce qu'on veut mettre autour, et même un jardin, si on veut. Mais c'est une histoire de A à Z. J'ai une anecdote à vous raconter à ce propos qui résume, à mon avis, parfaitement ce qu'est l'ADN de Paris Match et la construction d'une histoire. On avait, au moment du film L'Amant, inspiré du roman de Marguerite Duras, un film de Jean-Jacques Haneau, remarquable d'ailleurs, on avait un sujet exclusif qui composait tout le film. Et alors qu'on avait préparé 16 pages magnifiques, légendées, titrées, chapeautées, Roger Théron, le directeur, soudain crée la stupéfaction à la conférence de rédaction et dit « Mais c'est formidable ce sujet, mais il manque quelque chose. »« Ah bon? Il manque quoi, Roger ?»« Bah, il est où, l'amant ?» Et en effet, il n'y avait rien sur l'amant réel qui avait été celui de Marguerite Duras. Et là, il y a une voix qui s'élève, c'est un rédacteur en chef, Jean Durieux à l'époque, qui dit, écoutez Roger, on a un reporter actuellement au Vietnam, on avait un reporter au Vietnam, il va vous retrouver l'amant. Eh bien, il l'a retrouvé.
Et vous avez raconté l'histoire.
Retrouvé. Et nous avons publié l'histoire de A à Z. Et pour savoir que c'était vrai, ben, la cerise sur le gâteau, c'est lorsque Marguerite Duras est passée au journal télévisé du soir et qu'elle a dit, vous savez, le film de Jean-Jacques Hano, moi je l'aime pas tellement parce que, franchement, mon amant, il était quand même plus beau que l'acteur qu'il a choisi. D'ailleurs, le voilà. Et elle sort Paris Match qu'elle déploie devant les caméras du JT. Ça, c'est une histoire de A à Z, confirmée en plus par la personne qui était au cœur de l'action.
Vous avez cité Roger Théron. C'est un personnage qui a beaucoup compté pour Paris Match, beaucoup compté pour vous aussi.
Bah d'abord parce qu'il m'a recruté, déjà. Vous savez, il y a des photographes de match qui disaient dans les années 50 que travailler à Paris Match, c'était pas un travail, c'était un rêve. Bien, ce rêve, moi, j'y pensais pas d'entrer à Match quand j'étais à France Soir, qui était déjà pourtant un quotidien qui tirait 1 million d'exemplaires par jour en 8 éditions, et où j'ai rencontré et connu Philippe Labro, par exemple, à France Soir, qui avait fait un scoop extraordinaire, d'ailleurs, sur l'assassinat de Kennedy. Je fais la parenthèse rapide. Il avait quitté un voyage de presse dès qu'il a entendu qu'il y avait eu un meurtre à Dallas, qui était Kennedy, qu'on avait tiré à Dallas. Et il a été présent dans le commissariat de police de Dallas quand on a assassiné sous ses yeux, quand Ruby a tué Harvey Oswald. Il était présent, le seul journaliste français. Quand même extraordinaire. Donc alors, évidemment, être recruté par Roger Théron était au numéro 1 du journal, comme Daniel Filipacchi était au numéro 1 du journal. Puis il y a une petite période, entre 68 et 76, où le journal avait perdu son âme, en essayant d'être un magazine, un peu news, mais pas aussi bien réussi que l'Express ou Le Point, qui donc ne marchait plus. Et quand Daniel Filipacchi a racheté Paris Match, il a fait revenir Roger Théron qui était parti et qui était vraiment l'âme. On dit que c'était l'œil du journal parce qu'il montait son journal comme un film. C'était un peu comme on était à Hollywood avec lui. Toutes les photos étaient par terre, il les regardait et au jugé, il savait la photo qui allait faire la couverture et il savait monter, faire le montage qui est la plus importante des choses dans un film, le montage d'un film. Il savait mettre les séquences, les sections, il savait faire rebondir les sujets. Alors quand un homme comme lui vous appelle au téléphone, enfin sa secrétaire au départ, Christine Ternot, que je cite, parce qu'en plus j'aime beaucoup une phrase d'elle, qu'elle dit « Moi je n'ai jamais été une assistante de Roger Théron, j'étais sa secrétaire, parce que dans secrétaire, il y a secret et se taire ». J'aimais beaucoup cette phrase. Et un jour, j'étais à Glasgow, sur un match de foot, pour le Figaro, j'étais au Figaro à ce moment-là, le téléphone sonne à midi, c'est l'heure où on quitte sa chambre d'hôtel en général, le téléphone, je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de m'embêter à midi, ils sont pas à 5 minutes près ?» Et là, j'entends une voix délicieuse qui me dit « Patrick Mahé, bonjour, ici Christine Ternot, je peux vous passer Roger Théron ?» Alors là, ma valise est tombée directement sur le plancher. J'avais Roger Théron en ligne, qui était déjà un monument de la presse magazine, et qui, de sa voix de bronze, m'a dit « Oui, Patrick, vous rentrez à quelle heure de Glasgow ?»« Ben, ce soir, rendez-vous au Fouquet's. » Et là, j'ai eu rendez-vous au Fouquet's avec lui. Jean Co était présent, grand écrivain, prix Goncourt, plume incroyable, styliste, hors pair. Et j'ai passé un examen de passage, en fait, j'ai eu mon examen de passage...
Au Fouquet's,
à 18h ou 19h.
De retour de Glasgow.
Incroyable, retour de Glasgow.
D'accord, c'est l'entretien, tout simplement.
Un entretien simple, oui. J'en avais eu un autre Figaro, c'est avec Jean d'Ormesson, mais qui était beaucoup plus formel.
Ah.
Forcément.
Et là, à ce moment-là, parce que vous y revenez dans votre livre, Match, c'est bien sûr un magazine, mais c'est aussi un lieu. Il y a eu plusieurs lieux, plusieurs adresses dans l'histoire de Paris Match. Est-ce que certaines ont été plus marquantes que d'autres? Est-ce que ça symbolise aussi l'évolution de ce magazine?
Dans l'histoire de Match, il y a plusieurs adresses importantes. La plus importante, c'est la rue Pierre-Charron. Parce que la rue Pierre-Charron, c'est l'immeuble de la Fondation.
Dans le 8e arrondissement.
Dans le 8e arrondissement. C'était un appartement de 3 pièces seulement. Donc les gens, les jeunes journalistes s'entassaient. Et ils s'entassaient tellement dans l'appartement, d'ailleurs, qu'ils avaient fait du bar de la Belle Ferronnière en bas, leur annexe. Mais c'est une adresse formidable parce qu'elle a marqué plusieurs histoires, notamment une qui est pour moi la plus importante, c'est que Brigitte Bardot, qui avait 16 ans et qui était la jeune fiancée à venir, en tout cas, de Roger Vadim, attendait son soupirant, Roger Vadim, qui jouait au poker avec les autres photographes pendant les soirs de bouclage. Elle était donc sur le canapé de l'entrée pendant que Vadim jouait au poker avec les autres photographes. C'était une atmosphère particulière. La rue Pierre Charron, c'est là que Prouveau avait son bureau. Puis après, quand Daniel Filipacchi a acheté Paris Match en 76, Match s'est déplacé sur les Champs-Élysées. Et là, c'était formidable. C'était un paquebot. C'était un petit paquebot magnifique. Voilà, sur les Champs-Élysées.
Les Champs, et puis jusqu'à aujourd'hui, la rue des Cévennes, ici dans le
15e arrondissement. Et aujourd'hui, la rue des Cévennes qui est teintée d'ailleurs de littérature, avec Apollinaire.
Absolument. Apollinaire. Patrick Mahé, on marque une courte pause. Et l'on vous retrouve dans un instant, il est 19h43 sur Europe 1. Patrick Mahé, auteur de La Légende de Paris Match aux éditions Plon, à l'occasion des 75 ans de l'hebdomadaire. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Soir Week-end. 18h-20h, Jacques Serret.
Et notre invité jusqu'à 20h, c'est une figure de Paris Match, Patrick Mahé, auteur de La Légende de Paris Match aux éditions Plon, à l'occasion des 75 ans de Paris Match cette semaine. On va poursuivre ensemble notre entretien jusqu'à 20h et parler surtout des photographes de match. Beaucoup vous ont marqué, c'est d'abord la photo à match qui évidemment...
La photo à match, c'est la locomotive. C'est la locomotive de tous les sujets. Bien sûr, il y a le poids des mots et le choc des photos, selon la célèbre devise, d'accord, qui crée un équilibre, qui crée une harmonie. Mais c'est le visuel qui l'emporte spontanément, avec la technique du chapeau d'écriture court, mais qui dit ce qu'il doit dire spontanément, pour qu'on entre dans l'histoire, la légende photo qui précise les faits, les lieux, les hommes, et après le texte qui raconte la fin, ou qui enjolive même l'histoire. Donc le photographe a un rôle capital, puisqu'il est leader dans la locomotive, c'est lui qui mène le train, si j'ose dire. Et donc il y a des photographes extraordinaires, je vais en citer quelques-uns bien sûr, puisque vous m'y invitez, et puis ça me fait plaisir. Jack Garofalo, qui fait la couverture du livre d'ailleurs, c'est un livre, et d'ailleurs, pour la petite histoire, je peux vous dire que c'est son épouse qui l'a pris en photo en train de lire un numéro de match avec Greta Garbo qui est sur la couverture.
D'accord.
Et voilà, bon, Jack Garofalo, avec qui j'ai fait beaucoup de reportages, notamment en sport, à l'époque où Michel Platini était dans l'équipe de Paris Match, on était ensemble avec lui, et puis il a fait beaucoup de reportages, Jack. Il s'est immergé dans Harlem pendant des semaines. Il a travaillé auprès du Dalai Lama, il a fait énormément de choses. Pedrazzini, qui était l'icône absolue, il n'y a pas un directeur de Paris Match qui n'avait pas sa photo sur son bureau. Pedrazzini, c'est un jeune dieu, un beau mec et tout, il avait tout pour lui. Et il s'est fait descendre à Budapest par les Russes lors de la révolution hongroise. Il a mis une semaine pour mourir. Et la photo symbolique la plus extraordinaire, c'est qu'on lui montre sur son lit de mort les photos développées de son dernier reportage. Et dans le même week-end, Jean Roy, son alter ego qui est à Suez, se fait descendre sur le canal de Suez par les Égyptiens, et lui, il avait comme carte d'identité une Jeep, et sur cette Jeep, un numéro d'immatriculation, le numéro de téléphone du standard de Paris Match. Donc ça montre l'état d'esprit qui était, dès sa création, l'état d'esprit du journal Paris Match. Et ça a duré à travers toutes les générations, et ça continue.
Et ça continue, Patrick Chauvel, par exemple.
Et ça continue. Chauvel, voilà. Évidemment, qui lui a fait sa première couverture de match.
À 73 ans.
À 73 ans, sur Florent Pagny.
Avec Florent Pagny.
Qui était son copain, en fait, contre lequel il avait eu un petit bras de fer sur le tournage d'un film pour l'honneur d'un capitaine de Pierre Schoendorfer. Et ils sont devenus extrêmement copains. Et c'est à lui, quand Pagny a été raconté le mal dont il souffre, le cancer qu'il a, qu'il s'est confié. Et Chauvel a fait sa grande couverture.
Des grands photographes, des signatures et des moyens mobilisés sur des événements, des faits divers également, hors du commun. On parlait de cette affaire, de l'affaire du petit Grégory, où là, Match, cette affaire qui a marqué la France entière, Match s'est déployé sur place avec des moyens, on peut le dire, conséquents.
Bah, disons que il y avait deux équipes, en fait. Une équipe de Match, c'est toujours un reporter texte et un photographe.
Qui travaillent
en
ensemble.
Mais là, il y a eu deux équipes. Pourquoi ? Parce que, comme les gendarmes, au départ, avaient ouvert une piste sur l'assassinat du petit Grégory, qui conduisait à la culpabilité virtuelle de Bernard Laroche, et comme, d'autre part, le juge d'instruction avait orienté l'enquête et avait accablé Christine Villemain en l'enfermant, Eh bien, du coup, on avait deux équipes. Une avec Jean Kerr, figure de tous les grands faits divers depuis l'affaire de Bruyère en Artois, grande figure des faits divers, et Jean-Michel Caradec, un garçon d'excellence qu'on avait recruté après sur un Tour de France cycliste, d'ailleurs, formidable, qui était dans l'autre camp. Mais alors, ce qui se passait le soir de bouclage, c'est que quand il revenait des Vosges, de la Vologne, ils arrivaient chacun avec leur vérité. Et leur vérité, c'était granitique dans leur tête. Donc on les débriefait, Patrick Miller, qui était un autre rédacteur en chef, et moi, sur les Champs-Élysées, dans un bar de nuit qui se fermait à 3h du matin, parce que c'était tard, et on les débriefait, et parfois, eh bien, je peux vous dire que les verres de bière, car c'était de la bière mousseuse, volaient. C'était pas marrant, parce que chacun avait sa vérité, il fallait composer avec les deux. Et on y arrivait très bien, parce qu'on donnait une version A, et une version B qui compterait, et comme d'habitude, à l'école de Paris Match, c'est le lecteur qui se fait sa propre opinion.
Alors, les faits divers, mais aussi la politique, les présidents de la République, Paris Match qui révèle notamment l'existence de Mazarine, c'est ce que vous nous dévoilez un peu les coulisses de tout cela dans votre ouvrage, et ces coulisses qui nous emmènent, vous nous emmenez par exemple au bar de l'hôtel Bristol dans votre ouvrage, la publication était restée secrète.
Absolument.
Jusqu'au bout, même. Alors, j'ai lu notamment que certains journalistes travaillaient sur un article fictif, on leur avait pas dit. C'est-à-dire que même au sein de la rédaction, l'existence de cette révélation qu'allait faire le journal n'était pas connue au sein même de la rédaction.
Non, pas du tout, bien sûr, puisque en fait, ce sont des photographes qu'on appelle des paparazzi qui étaient sur la trace d'Isabelle Adjani, qui était en rupture amoureuse, et qui, par une confidence d'une commerçante, se sont trouvés sur la trace, du coup, de Mazarine Pinjot. C'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas du tout sur Mazarine Pinjot, mais ils l'ont vu, donc ils l'ont suivi, et ils ont assisté à ces extraordinaires retrouvailles au restaurant Ludivelec, près des Invalides, entre François Mitterrand et Mazarine Pinjot. Mais après, bien sûr, une fois qu'on a eu les photos, qui était exceptionnel, il y avait aussi la responsabilité de publier. Et là, s'est entamée une négociation entre Franck Thénault, le numéro 2 du groupe, Philippe Aki, et Roland Dumas, pour savoir à quel moment...
De l'Élysée.
L'Élysée. On a fait des tirages photos, en effet. J'ai d'ailleurs été chargé de montrer les photos à Paulette Decrène, qui était secrétaire à l'Élysée, au bar du Bristol, que vous avez évoqué. Et puis, le président, quand il a vu les photos, a donné son feu vert, sans le donner vraiment, mais c'était une manière d'approuver en disant la presse...
Il n'allait pas s'y opposer.
La presse sait ce qu'elle a à faire, donc il n'allait pas s'y opposer. François Mitterrand était en fin de vie, il faut bien le reconnaître, il faut s'en souvenir. Il mettait donc de l'ordre dans ses idées, dans ses affaires, dans sa vie de famille. Et on en a eu le bouquet, en fait, des obsèques quand la famille morganatique était réunie. Au complet. Voilà, donc voilà comment ça s'est fait. Et vous disiez qu'il y avait des journalistes qui travaillaient sur un autre sujet. Ça arrivait souvent, en fait, au journal, qu'il y ait beaucoup plus de sujets préparés que ceux qui paraissaient. Et je me souviens qu'à un moment, un de nos concurrents, qui vendait deux fois moins ou trois fois moins que nous à l'époque, mais quand même, qui était là et qu'il fallait respecter, on disait « Ah, oh, cette semaine, on a de quoi faire un journal et demi, un Paris Match et demi. Et si on le rachetait ?» L'autre, ça serait pas mal finalement, on réussirait à placer tous nos sujets.
Et alors, ces rapports, il y a ces négociations pour des photos cachées, et il y a aussi ces scènes incroyables que l'on peut lire dans ce livre. Il y a ce photographe, autre grand photographe de match, c'est Pascal Rostin, qui se retrouve à un G8 au Canada, et cette scène où avec l'époque Jacques Chirac 2002,
absolument,
si je ne me trompe
Jacques
pas,
Chirac, ouais. Poutine,
qui se retrouve embarqué comme Bush. Ça, et vous nous faites le récit des aventures de Pascal Rostin au G8, au milieu des présidents.
C'est parce que le Premier ministre du Canada qui était d'origine québécoise, l'avait pris dans ses bagages et l'avait installé, non pas, je ne sais plus quel était le nom de l'endroit, dans l'Alberta, un endroit isolé, et alors que tous les journalistes étaient un peu à l'écart, dans une ville moyenne, lui avait été intégré totalement au voyage et donc a assisté à des scènes hallucinantes. Il a vu Poutine en train de touiller la tasse de café de Bush, par exemple. Il a entendu Chirac parler de football avec le chancelier allemand. Il a vu le Premier ministre du Japon faire une démonstration de la désalutation les plus diplomatiques.
Prosterner presque devant le président américain.
Prosternant, ouais. Absolument. Naturellement, il a eu l'intelligence de ne pas diffuser cette photo-là qui aurait pu causer un tort considérable au Japon.
Il s'en est expliqué avec Jacques Chirac.
Et il s'en est expliqué plus tard avec Jacques Chirac qu'il avait croisé ou rencontré à Marrakech. Et il lui a raconté la scène et Jacques Chirac lui a dit « Rostin, vous êtes un homme épatant ».
Pour terminer, Patrick Mahé, figure de Paris Match, invité sur Europe 1 ce soir.
Je ne suis pas la seule figure, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, mais vous êtes l'auteur de ce livre « La légende de Paris Match ». Pour conclure, comment est-ce que vous voyez les 75 prochaines années de Paris Match ?
Écoutez, on ne peut pas répondre à une question aussi ambitieuse. Je sais que Jérôme, dans son éditorial cette semaine, a dit « Rendez-vous dans 75 ans », c'est magnifique, j'adore cette formule d'ailleurs. Mais le journal, comme tous les magazines, vont évoluer, on le sait, les réseaux sociaux ont changé la donne, Life n'existe plus en tant que presse magazine, mais n'est que sur le digital. En revanche, je pense qu'il y aura toujours et toujours un appétit et une curiosité pour des sujets montés à l'excellence, sérieux, bien ficelés, avec une curiosité et avec aussi toujours un côté pochette surprise. Parce que Match a cet avantage d'être une pochette surprise. On ne sait jamais ce qu'il va y avoir dedans. Et en fait, on n'est jamais déçu parce qu'on trouve toujours la perle rare qu'on ne voit pas ailleurs.
On conclura sur ces mots. Merci beaucoup.
Bonne chance aux équipes actuelles.
Merci beaucoup Patrick Mahé d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce soir. Joyeux anniversaire encore une fois à Paris Match. Je rappelle votre livre à retrouver dans toutes les bonnes librairies à partir d'aujourd'hui, La légende de Paris Match aux éditions Plon.